France Inter.
Qu'est-ce que vous avez dit avec Lisa Delmoitié, Emma Beauchamp, Tom Baldetti, Olivier Delasse, Tanguy Bassureau, Daniel Morin, et nos invités Alexis Michalik et Florent
Blair. La bande originale, Leïla Kadour et Nagui.
Ça va refaire Führer, c'est la baseline des producteurs.
Voilà.
Eh oui, avec ce signe, ce salut nazi, il faut vraiment oser pour aller dans ce genre de délire. Il y a quand même un pigeon qui chie sur le titre des producteurs sur l'affiche. Bienvenue Alexis.
Allez, merci.
Bienvenue à vous aussi Florent, parce que vous êtes le rôle principal, même s'il y a évidemment un casting énormément d'actrices et d'acteurs, des musiciens, tout ça étant en live, c'est une très belle comédie musicale, mais vous m'avez bluffé, impressionné. Ouais.
Pardon, j'ai pas entendu.
Bienvenue.
En revanche, cette moustache,
je remercie Alexis.
Voilà.
C'est l'élégance, c'est Clark Gable, c'est Georges Clooney,
c'est Popek.
Les Brigades du Tigre.
Le problème à Paris, c'est la caca des pigeons.
C'est au théâtre de Paris, donc on en parle de ces producteurs, un formidable succès à voir absolument. Mais parlons des comédies musicales, que ce soit au cinéma ou au théâtre d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des comédies musicales qui ont marqué votre enfance, votre mémoire?
Bien sûr.
Leïla, vas-y.
Podane,
ok. Tu connais tout par cœur? Tu connais la chanson du cake, la recette du cake et tout?
Ouais, je crois que je suis pas mal. Sur la fée aussi, j'adorais la fée, moi.
D'accord.
La marraine la fée.
Lisa, tu as été touchée par une comédie musicale?
Podane, pareil.
Ouais, trop facile.
Non, je jure que c'est indépassable.
C'est comme ça.
Ok. Alors, on va changer de catégorie.
Ouais.
Emma.
Peau d'âne.
Non,
moi c'est.
Je sais même pas de quoi on parle.
Moi c'est mon joli. Oui, non, pour vous parler de la peau d'un âne. High School Musical, voilà.
C'est vrai. Est-ce que c'était pas une série où il y avait énormément de reprises? C'est ça, c'est
pas
une école où...
C'est Glee, ça.
Mais non, ouais, c'est
je confonds avec Glee.
Pas du tout.
C'est Zac Efron à High School Musical.
Ouais, voilà.
Ouais, je confonds avec Glee, où il y avait beaucoup de covers qui permettaient d'ailleurs à toute une génération de redécouvrir des originaux, d'ailleurs, parce que ça chantait du Queen ou autre. Toi,
Madonna aussi.
Tanguy,
moi, j'ai aimé beaucoup le Rocky Horror Picture Show. Voilà,
c'est une rêve. Voyez, Tom Baletti.
Podane, c'est le seul que j'ai vu.
Oh, arrête, t'es pas crédible.
C'est le seul que j'ai vu.
Ça se transmet.
T'as pas vu
Chantons sous la pluie, West Side Story,
Le Roi Lion,
Grease.
Non.
Ça quand même.
C'était vachement bien.
Ça passait pas mal à la télé, sur
Chicago. Et sur scène, tu as vu des ou pas? Parce que là, on parle beaucoup de cinéma.
Mais j'ai vu Les Demoiselles de Rochefort
au Lido,
la recommandation de Leïla il y a 2 semaines. Là.
D'accord.
Mais tu restes sur Podane, apparemment.
Podane. L'inceste.
Eh bien, moi, je suis pas spécialisé en comédie musicale. C'est pas le truc que
dis Podane.
Mais évidemment. Non, je vais dire peut-être La Vie de Brian. Il chante un peu dans La Vie de Brian.
C'est pas malade.
Ouais.
Évidemment, enfin, c'est pas vraiment une comédie musicale non plus. Hein.
Non, c'est pour ça que
j'adore les inconnus de toute façon. Alors. Moi j'adore les Danettes.
Daniel Morin.
My Fair Lady.
My Fair Lady.
Ouais, donc, tu engages bien ton jeu.
Ah oui, c'est ce que j'allais dire.
Ouais.
Génial, et le Rocky Horror, bien sûr. Mais My Fair Lady, c'est formidable.
Okay.
Alors moi je suis très très branché Grease. Je reconnais Le Roi Lion, j'ai été impressionné. Et puis j'ai vu récemment Moulin Rouge et je me suis pris une claque.
Moi j'ai pleuré à Moulin Rouge.
Ouais, moi aussi.
De trop de talent.
Non, mais
oui.
C'est vrai.
Non, mais même c'est émouvant aussi.
Oui, c'est émouvant, mais il y a un moment, tu l'as vu à Londres.
Oui.
Et moi, je suis allé le voir avec ma femme à Londres. On prend les dernières places qui restent et tout. On se dit, bon, allez. Et on est comme ça, tellement c'est trop fort. Et d'un coup, moi, vraiment, je vois beaucoup de talent sur scène. Je pleure. C'est pour ça que je pleure tous les soirs sur scène en ce moment. Les producteurs avant. Et je me tourne vers ma femme qui était en larmes aussi. Ils sont trop forts. Ça fait trop bien. Ça danse. La mise en scène est folle.
Alors, c'était ce que j'allais vous demander, vous, s'il y avait une comédie musicale. Alors, avant de jouer dans Les Producteurs, est-ce qu'il y en avait une que vous aviez aimée, Florent Père?
Oui, moi, c'est Les Misérables. Que j'ai découvert à New York.
Et bizarrement.
Qui marche pas en France.
C'est ça. Non. Énorme succès.
Enfin, au Châtelet, ça a marché.
Non, mais qui longtemps n'a pas marché en France par rapport au succès mondial que ça a connu. Pardon, si.
Claude-Michel Sonneberg. Ils ont eu un problème pour démarrer en France. Et ça cartonnait aux États-Unis. Et c'est le succès à l'étranger qui a fait que ça a pu revenir en France.
C'était pas tout à fait la même version entre la création en France. Aux États-Unis, il y a eu des producteurs quand même qui sont arrivés. Mais la version qu'ils ont fait au Châtelet avec Lady Zachola a cartonné cette année. Mais c'était super.
Il faut reconnaître. Donc ça, c'était Les Misérables que vous avez vu à New York.
Les The Book of Mormon. Okay. C'est mes deux.
Et vous, Alexis, qu'est-ce qui vous a fait tomber dans le bain des comédies musicales ?
Moi, j'ai commencé très jeune, mais c'est surtout toute la période, l'âge d'or des comédies musicales hollywoodiennes, de Chantons sous la pluie, Vincente Minnelli, Bandwagon, Gene Kelly, tout ça.
La La Land, ça vous a fait quelque chose ?
Oui, j'ai adoré La La Land. Dès qu'il y en a une un peu chouette réussie, je suis fan. Chicago, j'avais adoré. Voilà, La La Land, ouais, super, ouais, un bel hommage.
Et les producteurs, ils ont quel âge ? Alors, c'est Mel Brooks à la base qui a fait
Florent Père, il a 62 ans.
Non.
Ah, d'accord, les producteurs.
La création des producteurs, c'est
quoi ? Ouais, bah, c'est d'abord un film de Mel Brooks qui n'est pas une comédie musicale, mais dans lequel il y avait déjà des chansons qui datent de 68, je crois, entre 67, 68. Et qui est culte, hein, pour toute une génération de gens qui l'ont vu à l'époque, en tout cas. Mon père, par exemple.
Qui avait été salué d'un Oscar, non ? C'est pas ça ?
Du scénario, je crois, ouais. Absolument.
Face à des gros films, en
exactement.
Plus. Hein, c'était un peu impressionnant.
Ce qui était, donc voilà. Et ce qui était d'autant plus choquant à l'époque, ça parle évidemment d'une comédie musicale sur les nazis. Et ensuite, il en a fait un stage musical, donc au théâtre à Broadway en 2001, il me semble, 2000 ou 2001. Et ça a été le plus gros carton à l'époque, en tout cas avant Hamilton, avant qu'Hamilton détrône les producteurs. Ça a été le plus gros carton. Il a gagné 10 Tony Awards et ça n'avait jamais été monté en France. Et de cette comédie musicale, ils ont fait un film en 2005, non pas réalisé par Mel Brooks, mais par Suzanne Stroman, qui était la metteuse en scène originale de la pièce. Et ce film, c'est avec Will Ferrell, Uma Thurman, et je l'ai vu, ce film, et je me suis dit, mais il faut absolument le monter en France, et 25 ans plus tard, nous y voilà.
Oui, il a fallu se battre pour y arriver, parce que c'est pas simple, j'imagine, de convaincre des Américains de laisser des droits, ou de pouvoir changer peut-être quelque chose à la mise en scène, parce que vous avez mis votre patte.
Ça, c'est sûr, ouais. Mais il y a eu plusieurs tentatives de le faire. Le problème, c'était surtout de trouver le duo de producteurs, donc des gens suffisamment connus, reconnus, et qui sont capables de jouer 6, 7, 8 fois par semaine un rôle très astreignant en termes de chant. Et c'était jusqu'à Florent Père. Et
quand Florent Alexandre, Père est arrivé... Alexandre Fetrouni, Régis Vallée, Julien Amiore, Andy Koch, Roxane Le Texier, entre autres, à l'affiche de ses producteurs. On en parle jusqu'à midi et demi, mais d'abord voici Hold de la Fan de Florent Père et d'Alexis Michel.
En scène le plus prolifique, vous avez gagné tellement de Molière, vous devez être à 100. Même Molière n'en aurait jamais gagné autant. Je suis fan de Florent Père, car lui et moi, on est les deux grosses vedettes de Ducobu 3. Tous les deux, on est les humoristes les mieux collés. Puis grâce au ski nautique et moi aux photos retouchées. Et vous êtes là pour le retour des producteurs. Un spectacle avec des moments qui font très peur. Il a rendu Daniel très nostalgique pourtant. Depuis ce matin au café, il parle en allemand. Oh, je suis fan d'Alexis Michalik, mais cependant, dans ma carrière, je vous dois un moment vraiment très gênant. C'est le tournoi de ping-pong des Béliers à Avignon. J'avais perdu, m'avait filé une raquette. Bidon. Alors, pour resituer la situation pour les auditeurs, tous les ans.
C'est vrai ou pas?
Bien sûr que c'est vrai. Pendant le Festival d'Avignon, le Théâtre des Béliers organise un tournoi de ping-pong légendaire. C'est un tournoi de double avec des équipes tirées au sort. Et en 2022, j'étais très attendu pour ma toute première participation. La presse était là et Alexis Michalik était arbitre du tournoi. Je crois que c'est vrai.
Effectivement.
Je ne vois pas. Et aujourd'hui, vous devez balancer un énorme clash sur le service public. Monsieur Michalik m'avait fait une raquette pourrie, un partenaire pourri. J'avais la lumière dans l'œil. Il y a une éclipse. On a joué face au frère Lebrun qui n'était pas encore très connu. Ce qui fait qu'on ne marquait que 5 points et on a été éliminé au premier tour avec mon partenaire de merde. Alors, Jean-Yann Ma, c'était terrible. Florent a déjà participé, je crois. Il sait de quoi je parle. Voilà pourquoi j'ai balancé un son bien engagé. Ouais, listen to the ping of the pong-pong. Il a fallu que je perde, mais je reste un bonhomme. Il a fallu que the ping of the pong-pong. Il a fallu que je perde, mais je reste un bonhomme. Tu gagnes, tu perds, la faute à Michalik. Tu gagnes, tu perds, la faute à Michalik. Y'a Florent Père, la faute à Michalik. Ping, pong, five. Ouais, listen to the ping of the pong-pong. Il a fallu que je perde, mais je reste un bonhomme. Listen to the ping of the pong-pong. Il a fallu que je perde, mais je reste un bonhomme. Les périodes me gavent, j'ai eu au ping-pong 5. J'aurais gagné le tournoi, j'aurais épaté une Nagui. Mais un matos pourri, un partenaire pourri. Du coup, j'ai eu que 5, je suis humilié à vie. Ping, ping, ping of the pong-pong. Je suis plus le king, king, king of the ping-pong. Le king of the pong-pong. Moi, le bonhomme. Oh, je
suis fan, fan de la victoire, la victoire. La justice a triomphé, je vais bien dormir ce soir. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Personnel de la fin, samedi, à Vire.
Et vous étiez vraiment Alexis Michalik, l'arbitre ?
Non seulement l'arbitre, mais le créateur de ce tournoi effectivement historique, okay. qui se tient chaque année au Festival d'Avignon, au Bélier, à une date très précise, ça dépend, mais et c'est sur scène.
À une date très précise, ça dépend.
Oui, exactement.
Et une forme de précision.
Voilà, je ne la donnerai pas, mais elle existe. Et effectivement, c'est après les spectacles, donc à partir de minuit, il y a du punch, on tire les équipes au sort, et le public
de tous
encourage.
Les acteurs qui jouent
c'est
à Avignon.
Acteurs, ceux qui c'est du ping-pong, excellent. Voilà. Laurent nous fera des petits calembours durant toute l'émission.
Le sniper. Le sniper par excellence.
Et donc, effectivement, Oldolaf, désolé. Et comme vous avez vu, je pense que cette émission, je pensais qu'on allait parler des producteurs. Non, on va parler de ping-pong.
Non, on va parler des producteurs. On va parler de ces deux saisons triomphales de 2021 à 2023 au Théâtre de Paris. 300 000 spectateurs, deux Molières, un délire. Et on va rappeler quand même le pitch, parce que ceux qui n'ont pas vu le film, ceux qui n'ont pas vu cette comédie musicale, le point de départ, c'est un producteur véreux que vous incarnez, parce qu'il y a une mise en abîme en même temps sur les aides, les fonds, et de se dire, moins une comédie fonctionne, plus on peut gagner d'argent. C'est le point de départ. Et là, il se dit, je vais monter la pire, la pire des comédies possibles, avec un scénar de merde, avec des gens qui chantent mal, avec ça, pour gagner le plus de blé. C'est ça.
Oui, il veut faire un coup comme ça sur un soir, parce que c'était le roi de Broadway, il a fait que des succès, puis là, il est en faillite depuis quelques projets. Et son comptable, effectivement, en mettant le nez dans sa comptabilité, se rend compte que, par une petite manigance, on peut, sur un flop d'un soir, faire un braquage, quoi. Donc, il décide, comme il est coquin, il décide voilà, de monter
de prendre
la pierre.
Les pires.
Ouais. Il prend les pierres, donc il trouve un nazi caché sur les toits de New York qui a écrit une comédie musicale qui s'appelle Des fleurs pour Hitler, qui est une déclaration d'amour au Führer. Donc il se dit là, normalement, on est quand même sur quelque chose. Voilà. Il trouve le pire metteur en scène auprès de Roger Debris, qui est un metteur en scène très très très
très ringard,
très très ringard,
joué par Julien Amiot.
Julien Amiot qui est exceptionnel, avec son assistant Andy Koch. Et donc il se dit, bon, là j'ai deux ringards, et après ils font un casting, ils prennent les pires comédiens possibles. Normalement tout est fait,
sauf l'actrice, où là le producteur véreux se dit, je vais l'engager pour avoir l'emprise sur elle.
Il fait son producteur, voilà, bien sûr, évidemment, d'une autre époque.
Ulla Ingan Hansen Benson Jansen Talen Allen Svanden Svansson, on va l'appeler Ulla.
Je préfère l'appeler Roxane Le Texier, comme ça au moins c'est... Moi, le nom de l'actrice sera plus évident. Combien de temps de préparation, de répétition pour les chorégraphies, les chants, le jeu? C'est un... Physiquement, c'est
une poisse. Ça fait 15 ans qu'on prépare.
Non, mais...
Ça fait 15 ans que j'attends
ce
moment.
Blaguer.
Non. Vocalement, je sortais de mon spectacle Nature quand même, où je chantais déjà, je faisais plein de voix différentes et tout, mais finalement c'est pas la même utilisation de la voix. Donc quand on s'est dit que j'allais le faire, tout ça, c'était au mois de mai. Les répétitions commençaient mi-août, mais dès début mai, je me suis remis à bosser avec mon prof de chant, Édouard Thibault, que je salue d'ailleurs, et à faire des vocalises tous les jours et à travailler la voix tous les jours. Déjà ça, parce que je voulais être sûr de... Je savais que c'était...
D'être en place, quoi, c'est
d'être
ça.
D'être en place, ah oui. De supporter la charge de travail des répétitions, et ensuite la charge de travail de 5, 6, 7 fois par semaine.
Mais Alexis, c'est ça le vrai pari, c'est de trouver le cast capable...
C'est Florent.
C'est de trouver le cas de jouer.
Non, bah oui, on a quand même des très bons artistes de comédie musicale.
J'entends.
De plus en plus en France.
Mais qui n'ont pas tous un nom, une autorité. Exactement. Aussi pour rassembler et attirer du...
Absolument,
du monde.
Absolument. Après, j'avais vu effectivement le spectacle de Florent. Je savais surtout qu'il en avait l'envie, qu'il avait envie de jouer là-dedans. Et puis voilà. Donc, ça s'est fait, et fort heureusement.
Et vous aviez envie, vous, de jouer dedans?
Moi? Ouais. Ah non, pas du tout.
Pourquoi?
Non, vraiment, c'est beaucoup trop exigeant physiquement.
Il faut y aller tous les soirs.
Je suis prêt à avoir à faire. Non, non.
Non, producteur.
Non, mais je pense que je l'aurais fait si j'avais un rôle où je m'étais dit, bon, bah, c'est pour moi, c'est parfait. Là, j'avais pas d'évidence. Par contre, voilà, pour Florent, j'avais une évidence. Mais raconte un peu tes prises de respiration à la fin de quand tu sors de scène, parce que vraiment, c'est extrêmement physique ce qu'il fait, quoi.
Ouais, ça, moi, je suis
bluffé. Après, c'est toujours pareil. Déjà, ma femme et mon fils sont tapés tout l'été mes vocalises. 5 sur sur 7, 7 sur 7, où qu'on soit.
Nous compatissons.
Et alors les pauvres, parce qu'on a fait un road trip en van dans les Pyrénées où on était censé aller dormir dans des endroits calmes, et tous les soirs à 23h, au clair de lune, ils se tapaient mes vocalises. Et non, après, bah oui, ce qui est compliqué dans ce spectacle, c'est que, en tout cas pour Max et Léo, les deux personnages principaux, ils sont toujours excités, toujours dans l'urgence, toujours, donc c'est très haut, en rythme cardiaque, en souffle, et souvent on chante, on danse en même temps, donc le peu que vous sortez de scène, il faut récupérer. Et donc comme moi je suis complètement zinzin, j'ai trois gourdes à court, à jardin, à l'arrière scène, j'ai des petits nébuliseurs, c'est des brumisateurs, enfin des petits aérosols portatifs, vous mettez du sérum fi dedans, vous aspirez, ça vous fait de la vapeur d'eau pour hydrater les cordes vocales.
Wow.
Normalement on en fait un peu de temps en temps.
Okay. Bon,
moi, gars, j'en ai de partout. Dès que je sors, bon, ça se calme maintenant. Je jouais une trentaine, on doit être à la trentaine peut-être pour moi là. Donc ça commence à se calmer, mais les démarrages, vous avez le cœur.
Vous n'allez pas trop loin en utilisant le terme je me gazais pour le sujet de la pièce, bien sûr.
C'est ça.
C'est que pour le rôle.
Injection de collagène.
Totalement, bien sûr.
Non, parce que si vous ne pouvez plus chanter, il n'y a plus de spectacle en gros.
Exactement.
Il y a une doublure, il y a quoi.
Bah non,
en fait, si.
Mais bon, enfin, le but.
Qui arrive à votre cheville pour vous remplacer?
Non, ce sera moins bien.
Je veux le.
Évidemment,
Sorel Prévost. Non, voilà. Les producteurs, c'est en ce moment et c'est à voir absolument. C'est une réussite au Théâtre de Paris. On en parle jusqu'à midi et demi. Voici Lisa Delmoitié.
Oui.
Parce que Lisa, vous n'auriez pas adapté Mel Brooks comme ça, vous.
Non, non. Je suis désolée, mais le nazisme, ça n'a rien de marrant. Ok.
Ah bon?
Enfin, sauf quand je vois un chat qui a une tache noire juste sous le nez. Ça, c'est drôle. On dirait un petit Hitler qui se lèche le cul. Enfin, ouais, ça, mais sinon, non. Non, mais si, bien sûr, on peut rire du nazisme. On doit même. Sinon, les nazis auront gagné. Voilà. Et qu'est-ce que la comédie musicale, les producteurs, ça le fait bien, quoi. En même temps, on l'a dit à Mel Brooks, une des rares personnes à avoir gagné un EGOT, c'est-à-dire un Emmy Award. TV, un Grammy Award, musique, un Oscar, film et un Tony Award théâtre. Mmh. Pour vous donner une idée, Mel Brooks, c'est un peu le Alexis Michalik américain, voilà, si on devait le décrire comme ça.
On voit mieux.
Et là, il a réussi à rire franco. Enfin, pas le dictateur, hein, j'ai le droit à un dictateur par chronique seulement. Non, mais il a réussi à rire franco du nazisme. Bon, ça aide qu'il soit juif, Mel Brooks, évidemment. Je veux dire, je peux faire des blagues sur quoi, moi? Les femmes, voilà. Les Belges aussi. Les gens instables émotionnellement. Les trentenaires qui ont de l'acné. Oui, bon, ça va finalement, j'ai de la marge. Et en fait, moi, je pense que tout le monde peut rire de tout, mais pour ça, il y a juste une toute petite condition que parfois les gens oublient. Il faut être drôle. Hein? Parce que parfois, tu vois des humoristes faire des blagues risquées et tu sens qu'ils sont fiers d'eux. Oh là, je vais choquer, t'es là, gros, juste. Elle est où la blague, hein? En fait, plus un sujet est sensible, plus il faut être drôle. Réussir une blague sur les nazis, c'est comme réussir un soufflé ou un macaron. C'est possible, mais commence par maîtriser le fondant, hein. Laisse le macaron à la durée et les blagues sur les juifs aux pros comme Mel Brooks, Michalik, Florent Père et moi. Ah si, écoutez, je passe ma vie à me rabaisser, laissez-moi m'auto-congratuler pour... J'ai été ambitieux sur ce mot-là quand même, hein. Lisa, 5 syllabes. Non. Je rappelle que j'ai un jour écrit... Vivement l'émission de demain, on reçoit un juif trans, et j'ai déjà le titre de ma chronique, se faire construire un pénis puis le circoncire, gâchis ou souci du détail? Donc j'ai l'impression que je mérite un petit peu de respect dans le domaine. Mais respect à vous deux quand même, surtout, respect pour le thème. Ça c'est chouette parce que je reprends des droits d'auteur dessus. Non, respect à vous deux vraiment. Respect pour le thème, respect pour le genre aussi, hein, la comédie musicale déjà, mais la comédie musicale à l'américaine. Ouais. Alors moi j'avais jamais vu Les Producteurs, mais j'ai vu The Book of Mormon à Broadway, donc le livre des Mormons. C'était incroyable. Déjà parce que Broadway, c'est près de Times Square, lieu du mythique magasin de M&M's.
Oui.
C'est incroyable. Moi, je vise avant tout la culture quand je voyage. Non, mais The Book of Mormon, pour vous donner une idée du niveau de grincement, c'est écrit par le mec de South Park, à qui on doit quand même un épisode récent où Dieu a puni Satan en le condamnant à avoir un tout petit anus, impossible à enculer, jusqu'à la naissance de Donald Trump, dont l'organe génital est si petit que lui seul peut pénétrer l'anus du diable en personne.
Ah,
bah, c'est quand même incroyable, cette série. Quoi. Ça existe, quoi. On voudrait tellement avoir ça ici avec Macron, on s'amuserait trop. The Book of Mormon, donc, le livre des Mormons, c'est sur des missionnaires mormons complètement teubés qui, comme tout blanc qui se respecte, partent en Afrique répandre leur religion. Et ils ont notamment une parodie d'Hakuna Matata, la célèbre chanson d'Aladin, bien sûr. mais si elle s'appelle Asadiga Ebowai. Et elle est plus réaliste. Donc c'est le même principe qu'Hakuna Matata, il faut le dire quand t'as des emmerdes. Hein. Donc ça va comme ça. Il n'a pas plu depuis 3 semaines. Asadiga Ebowai. On crève tous la dalle. Asadiga Ebowai. Nos fils se font exciser. Asadiga Ebowai. Attends, mais ça veut dire quoi exactement? Alors Asa, ça veut dire Dieu. Et Diga Ebowai, ça veut dire va te faire foutre en fait. Et voilà, c'est une chanson qui m'aide bien plus qu'Hakuna Matata. Asadiga Ebowai, c'est une déclaration philosophique que je ressens personnellement à un niveau spirituel, existentiel. Et je vous invite à répéter à l'avenir. Quand tout va mal dans votre vie, dites-le tout haut, criez-le bien fort s'il le faut, Dieu. Va te faire foutre en fait. Merci.
Asadiga Ebowai, voilà.
Il faut retenir, il faut assumer de le retenir, surtout, on ne peut pas se tromper. Les producteurs, donc cette comédie musicale avec des centaines de milliers de personnes qui vous ont déjà applaudi, et puis j'imagine qu'ils reviennent, puisque le casting a évolué aussi à travers les saisons, cette réussite avec votre mise en scène Alexis Michalik. Vous êtes permis de changer des choses par rapport à ce que Mel Brooks avait fait.
We can do it. We can do it. We can do it, me and you. We can do it.
Déjà, il a fallu transformer tout ça en français. Nicolas Angel l'a fait à vos côtés. La mise en scène, le rythme, la vitesse à laquelle ça va, les changements de décor, les situations, c'est extrêmement impressionnant. Vraiment, je me demande combien de personnes, parce que autant il y a une demi-douzaine de musiciens qui viennent saluer à la fin, il y a tout le casting où vous êtes, je sais pas, une quinzaine sur scène, ouais, c'est ça. Ouais. Mais derrière, les machineries, les décors fabriqués, les costumes, c'est un travail de dingue.
Ouais, c'est un gros boulot, c'est un gros show, mais moi j'adore ça. Hein. Donc ouais, je sais pas combien il y a de costumes, 180, un truc comme ça, peut-être plus. Moi, Marion Redman, toi t'en as un.
Ouais. J'en ai deux.
Non, t'en as deux.
Mais pardon, mais plus il y a de costumes, de décors, d'effets de lumière, de claquettes. Et non, c'est pas ça. Plus il y a de risques qu'il y ait un grain de sable qui vienne enrayer la machine.
Ça arrive, mais moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est-à-dire que c'est quand vous construisez un spectacle comme ça, alors j'étais pas à la création, mais je suis arrivé mi-août, tout le monde connaissait ses chansons, son texte.
Il y avait déjà, pardon,
il y avait la moitié du
non, mais vous avez la pression de, il y a déjà eu du succès pendant aussi.
Il y a eu du succès et tout ça, mais c'est de voir comment ça se met en place. C'est-à-dire que vous avez commencé, vous travaillez vos chansons, d'abord les chansons dans un coin, puis les chorégraphies dans l'autre, et puis le texte dans l'autre, et puis pendant ce temps-là, l'orchestre répète tout ça, chacun dans son coin.
Oui, parce que ça joue live, je le précise aussi, c'est pas des bandes playback.
Et puis après, on va mettre les chansons avec le jeu, et puis après, le jeu avec la chorégraphie, et puis après, l'orchestre va nous rejoindre, et puis après, on va déplacer les jusqu'à midi et demi.
On a compris, après,
c'est lassé. Et d'un coup, il y a tout qui se met en place sur ce premier filage. On fait, ah ouais, d'accord. Et là, sur ce temps-là, de cette chanson-là, ça fait fla derrière moi. Moi, je fais ça, la lumière, l'orchestre, machin. Et ça, c'est ouf. Et t'as 30 personnes qui sont sur le même rythme, sur la batte d'un seul cœur. Et ça, c'est kiffant à faire, surtout quand on vient du one man.
Ouais. Allez, oui, c'est de vivre le cas extrême. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de spectacles. Et ça, c'est votre touch, Alexis Michalik, parce qu'il faut aussi que des producteurs, au sens non véreux du terme, vous fassent confiance, en disant OK, on va y aller. Parce que
et l'amicale des nazis, du 9e arrondissement, qui nous a quand même bien aidé.
Beaucoup aidé, effectivement. Très qui a prêté des costumes à Florent.
Oui.
Mais il était déjà membre depuis longtemps. Bien sûr, il faut qu'il suive. C'est un pari à chaque fois, c'est même encore aujourd'hui. Hein. On est sur un équilibre très, très, très difficile à atteindre. Quoi. Mais c'est pas grave, on s'en fiche, c'est super, c'est la comédie musicale. C'est trop beau de voir ces salles pleines, c'est trop beau de voir les gens qui font le salut nazi en même temps que nous, que Florent. Non, pas du tout. C'est hyper touchant.
Mais blague à part, on en a parlé avec Pascal Elbé à propos de son film
La Bonne Étoile.
La Bonne Étoile aussi, avec beaucoup d'humour sur la Seconde Guerre mondiale et d'autodérision et en reprenant les phrases clés qui sont dites sur les Juifs en disant ils ont tout, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui dirigent tout et ainsi de suite. Et ça devient un film absolument génial que on vous encourage à voir. Mais est-ce que la question s'est posée par exemple de faire une campagne d'affichage avec la croix gammée parce que ce sont des gestes et des signaux
qui, oui, c'est fort.
qui sont forts et qui font froid dans le dos, parce qu'il ne faut pas oublier l'horreur. C'est un spectacle, c'est drôle, c'est une comédie musicale.
D'ailleurs, on la voit pas sur l'affiche, la croix.
Non, ouais, c'est-à-dire qu'il y a, je pense qu'on, de toute façon, on a tous
Mel Brooks,
conscience.
Mel Brooks, oui, on la voyait.
Ouais, sur l'affiche. Ah, c'est vrai. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, je pense qu'il y a toujours un moment où on bascule dans le malaise et on le sent nous-mêmes. Hein. Et mais bon, il y a.
Bah, c'est les premières minutes aussi où on se demande sur quel fil ça se passe, non ?
Bien sûr. Mais c'est tellement après, c'est tellement cartoonesque cet humour que on ne peut que succomber à un moment et se dire bon, même si en fait il y a une telle énergie, une telle débauche d'énergie de leur part que bon bah et oui. de la part de Mel Brooks que on cède quoi.
Il y a un pacte implicite de toute façon qui fait qu'on va vers la comédie
et puis,
directement.
D'en rire c'est avoir gagné.
Bah oui.
Et de se moquer des producteurs, de se moquer des spectacles, de se moquer de ceux qui ont des aides, des avances sur recettes. Pour monter des films, du CNC et autres.
Moi, je ferais ça.
Il y a aussi cette lecture-là de se dire, bah, peu importe le nombre de gens qui vont venir, la phrase n'est pas dite, c'est clairement dans le spectacle, mais c'est un peu la tournure d'esprit de ce producteur véreux, de dire, bah, finalement, en faisant un truc bien loupé, bien raté, on aura les aides et on aura du blé, et comme ça, je serai tranquille, et on prétendra même qu'on a investi des millions et des millions de dollars pour être dédommagé.
Ouais. Je ne sais pas ce que c'est, moi, personnellement, d'avoir des aides, donc du coup, je suis obligé d'essayer d'avoir du monde dans la salle. Vu que je fais du théâtre privé. Donc, non, mais c'est vrai, je suis pas sûr que ce soit la critique implicite de Mel Brooks, parce qu'ils ont pas là-bas un fossé public privé, ils ont pas de théâtre public. Donc, concrètement.
Surtout que. Là, dans les producteurs, c'est pas l'État ni le gouvernement que c'est des vieilles stocks.
Non, mais je me demandais s'il y avait une vanne, un billard vraiment. Trois bandes qui était fait là-dessus.
Non. Ah oui, non, pas du tout. Non, okay.
Très bien. Les producteurs, à voir, donc, à applaudir, c'est vous en prenez plein les yeux, parce qu'encore une fois, c'est une comédie musicale au sens spectaculaire du terme. Il y a le fond, l'histoire racontée, les dialogues, les échanges, les chansons, et puis il y a la forme, c'est-à-dire les chorégraphies, les costumes, les lumières, le live qui est joué, qui donne toujours cette espèce de puissance où on se prend quand même les vibrations directement dans le corps. C'est un vrai kiff. Moi, j'ai adoré.
Merci beaucoup.
Au Théâtre de Paris. Non, mais vraiment, félicitations. Voici venir Tom Baldetti.
Salut. Ça va bien ? Bonjour. J'espère que ça va. Moi, je suis de très bonne humeur. J'ai le sourire là. Je viens de recevoir le texto d'un pote juste avant de passer à l'antenne. Je vais vous le lire. C'est toujours agréable d'avoir des nouvelles de ses amis. Yo, gros menton. Quelle chronique à la merde tu vas nous pondre encore aujourd'hui. Sache que j'écouterai pas. Je trouve ta voix laxative. J'ai envie de chier à chaque fois que je t'entends. C'est pas un beau début de journée qui commence. Hein. C'est comme ça qu'on exprime notre amour avec mes amis.
Oui, bien sûr.
Bah, on passe nos journées à s'humilier, à se mettre plus bactère. C'est notre façon un peu pudique de dire qu'on s'aime très fort. Quoi. Quand un ami commence sa phrase par « ça va Tom ?» J'aime pas. C'est qu'il y a un truc qui n'est pas comme d'habitude. Quoi. Si une interaction avec un pote ne commence pas par insulter tout mon arbre généalogique, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Quoi. Le langage de l'amour, pour certains, c'est des petites attentions, c'est ramener des magnettes d'un voyage. C'est faire des gâteaux. Nous, c'est appuyer sur des points qui font mal. C'est créer des complexes. Moi, c'est grâce à mes amis que j'ai appris que j'avais un menton en surpoids pondéral. Quoi. Il représente un gros pourcentage de mon visage. Disons qu'il a besoin d'attention. Quoi. Il aime bien se faire remarquer. Je fais partie des gens qui ont un cul sur le menton. J'ai un menton qui s'est twerké. Louis Sarkozy veut être maire de mon menton. Quoi. J'adore cette blague. Merci.
Ok, allez.
Créer des complexes, ça crée des liens, quoi. Plus je suis proche de quelqu'un, plus je vais avoir tendance à être taquin. Par contre, avec quelqu'un que je connais pas très bien, avec qui je suis pas le plus à l'aise, bah je vais mettre les formes, quoi. Nagui, j'espère que le début de votre journée se passe dans des conditions optimales.
Merci.
Afin que cette dernière puisse continuer dans cette voie. Vous voulez un café? Je vous prie de bien vouloir agréer l'expression de mes salutations les plus sincères et distinguées. Bien à vous, cordialement. Alors qu'Emma et Lisa, je vous chie à l'arrêt, quoi. Hop, à tous nos auditeurs, j'accompagne cette phrase d'un petit doigt d'honneur.
Merci.
Afin que l'équipe de chroniqueurs du mercredi se soude. C'est comme ça qu'on exprime notre amour avec mes amis, quoi. On n'a aucun mal à s'insulter, mais se dire je t'aime, hors de question. Alors je profite de ne pas être face à eux pour le dire, et comme ils n'écoutent pas France Inter, il n'y a aucun risque qu'ils entendent. À tous mes amis, je vous aime, bande de gros chiens de la casse. Oh putain, il y a mon pote du début qui vient de m'envoyer un vocal.
Ouais, Patrick Bosson, j'espère que tu vas bien. Je suis en train d'écouter ta chronique France Inter à la merde pour vérifier que c'est bien de la merde. Et bah, c'est bien de la merde. Juste pour te dire, articule, tu parles dans ton menton, on comprend rien. Ta grosse mâchoire, là, on dirait un sac de voyage. Quand tu pars en vacances, tu mets tout dans le menton. Allez, bise, ciao, ciao.
Cool.
Waouh.
Bah, je vous laisse, mon menton et moi, on va discuter. Merci.
Merci.
À Paris, toutes les semaines, à Rennes demain, à Tours le 28, à Strasbourg le 29.
Voilà, et à c'est
les
infos. Un menton.
Ok. Non, bah, Nagui.
Ouais, ok. Ouais,
oh, ouais. Avant, j'étais le roi. Le roi de tout Broadway.
Natigonia.
Non, pas ce roi-là. Le roi, moi. Ah. On ne parlait que de moi. Tout le monde m'applaudissait.
Le roi de Broadway.
Il a le pognon. Tout est ok, respecté.
Et la danse, parce que vous avez répété et saoulé peut-être votre famille en chantant, mais la danse, vous avez ça dans le sang ou quoi?
Parce
que
c'est une évidence.
Non, mais blague à part.
Non, la danse, ça allait à peu près, parce que j'en ai fait plus jeune, voilà, jusqu'aux claquettes.
Okay. Ah, il y a un problème de claquettes.
Les claquettes, c'est encore un autre débat. Là, j'en avais jamais fait. Et alors, les claquettes, même les danseurs, ça s'arrache les cheveux. C'est pas la même coordination. Les claquettes, c'est un délire. Hein. Et bon, j'ai un petit numéro d'une minute trente qui sonne toute. Voilà, il faut le faire. Ça, c'est du travail. Et là, j'ai failli abandonner. Je vais dire, les gars, mettons quelqu'un avec des petites cuillères dans la régie qui fait tic-tic-tic-tic
à ma place. Vous pouvez le faire.
Et non, mais j'y suis arrivé.
On peut le faire. Accomplissons cet exploit. Toutes ces choses dont tu rêvais tant.
Les musiques devaient être dans ce style-là, c'est-à-dire qui devait sonner Broadway d'une période, d'une époque où vous êtes posé la question de savoir si vous alliez faire des arrangements.
Si on avait changé la musique, oulala.
Non, mais je pense. Tout à l'heure, j'évoquais Moulin Rouge qui a tordu le cou à des Roxane, à des Lady Marmalade et autres avec des versions totalement dingues venues de Baz Luhrmann.
Ouais.
Est-ce que vous vous êtes posé la question ou pas?
Non, je pense que Mel Brooks lui-même, enfin, je sais, hein, c'est sa référence, c'est plutôt Cole Porter, ouais. C'est des compositeurs vraiment Broadway,
jazzy. Et vous aussi, d'ailleurs.
Moi aussi, j'adore ça. Donc, non, j'adore ce type de chanson. À l'avenir, qui sait, peut-être faire autre chose. Enfin, moi, je suis aussi fan d'Hamilton qui va chercher dans le hip-hop des sonorités différentes. Et il y a plein de comédies musicales aujourd'hui, mais ce sera sur une autre comédie musicale.
Nous allons justement parler de l'histoire de Broadway tout à l'heure avec Laurent Vallière.
Il y aura un quiz.
Qui sera notre invité, si vous voulez.
Yes.
Qui sera notre invité. Moi, je fais des jeux dès qu'on peut. Hein. Mais d'abord, la musique dans votre vie, Alexis Michalik, vous écoutiez en 2001-2002.
Jaloux saboteur aux yeux de crocodile.
Mais plus fort.
Veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème.
Maître Gazonga.
Bien sûr, Maître Gazonga, c'est un groupe du Tchad. Je vous invite à mettre cette chanson en soirée et à voir tout le monde qui se met à danser. Ça dure 8 minutes.
C'est étonnant.
Et à cette époque-là, Alexis, on vous retrouve sur scène dans le rôle de Roméo, dirigé par Irina Brooke au théâtre de Chaillot. Ça doit être une expérience un petit peu folle que d'être dirigé dans ce lieu-là, par cette metteuse en scène-là, avec toute l'histoire que ça comporte. Hein, elle porte un patronyme qui la précède.
Ouais, c'était extraordinaire. J'avais 18 ans en plus. Je me suis retrouvé à faire Roméo et Chaillot. C'était absolument incroyable. Avec Jennifer Decker qui faisait ma Juliette et qui est aujourd'hui à la Comédie française,
bien sûr.
Et tout un tas de super comédiens, comédiennes, magnifiques. Jacques Martial qui vient de nous quitter. Ouais. Plein de gens. Et on continue à se voir, 25 ans après, à se faire des déjeuners régulièrement.
Qu'est-ce que vous avez appris de la direction, justement, d'Irina Brooke?
Bah, tout. Elle m'a, en fait, c'est avec elle que j'ai appris à faire de la mise en scène, tout simplement. J'ai compris qu'est-ce que c'était que la mise en scène. Moi, j'avais 18 ans, donc je sortais de. Bah, la mise en scène, en fait, c'est faire dire ce qu'on veut à un texte. C'est-à-dire qu'en gros, quand on applique un texte au théâtre, on lit le texte, et puis on joue le texte, et puis on suit les didascalies, donc les petites indications. Mais en fait, la mise en scène, c'est de dire qu'est-ce que je veux raconter à travers ce texte, moi. Donc, c'est rajouter une couche de narration, quoi.
La manipulation.
Exactement. J'ai compris que le théâtre, c'était profondément toxique. Ce jour-là.
Vous avez quelqu'un avec moi, par exemple, si je s'en compare.
Si tu veux, un pourcentage. Je t'ai rencontré plus tard.
Florent Père, vous écoutiez. C'est vrai, je fais mon job à plein temps. Bustaflex.
Je vous invite à mettre ce morceau en soirée et voir Jean danser.
Mais avant ou après Maître Gazonga, il se passait quoi en 2002 pour Florent Père, Leïla?
Après une blessure au genou, Florent, vous abandonnez votre sport études ski nautique.
Ouais.
Vous faites du théâtre aussi parallèlement et
vous avez fait quoi, les croisés?
Au plus, enfin les deux croisés, latéral, latéral. Je me suis luxé le genou.
Ah ouais,
donc j'ai eu un an et demi d'arrêt, trois opérations. Enfin, c'était
ouais, donc impensable de se dire qu'on peut faire carrière ou plus
non,
plus
je suis
vraiment
revenu vie. Après cette ouais. blessure, j'ai repris la compétition, mais déjà plus dans la discipline que puisqu'il y a trois disciplines dans le cynotif. Enfin, je vous passe les détails, mais voilà, je pouvais plus faire de saut. Donc petit à petit, ça s'est étiolé. Puis j'étais pas, soyons honnêtes, j'étais pas extrêmement doué.
Là,
j'avais un petit niveau national, mais
voilà.
N'était pas Thierry Martin,
ouais.
Patrice Martin.
Patrice Martin.
Ouais. Mais ça vous fait
ni Thierry Martin,
ni Thierry Martin, qui est conseiller massif.
C'est très bon en volley, mais bon, après.
Ouais, je crois que c'est l'un des champions français les plus titrés, enfin du ouais. monde les ouais. plus titrés ouais. en France. Ouais. C'est fou la carrière de ce gars. Ouais.
Et ça vous fait entrer et au Cours Florent quand même, parce que vous arrivez à Paris, vous voulez faire du théâtre, ouais. c'est des Cours Florent. C'est un début plutôt joyeux ou pas d'arriver à Paris un peu tout seul?
Pas joyeux du tout.
Ouais.
Pas joyeux du tout. Je sors de. Moi, j'ai fait Ardèche jusqu'à 15 ans, les arbres, la forêt, et après la mer jusqu'à 23, le ski, la mer, le soleil, l'internat, 70 copains, copines qui font que du sport. Une bulle, en fait. Vous êtes très isolé, enfin très choyé plutôt. Et là, je me retrouve 15 mètres carrés, tout seul, Pigalle. Je connais personne, la grande ville qui me fait très très peur comme un petit provincial. Et les Cours Florent où je m'amuse, mais c'est jamais que trois fois trois heures dans la semaine. Donc c'est beaucoup de solitude, beaucoup d'angoisse.
Ah, c'est pas plus que ça. Ah ouais.
Non. Alors, ouais. J'ai appris.
Les, oui, autres, oui. les autres, oui, ceux qui allaient vraiment.
Non, c'était à l'époque, c'était genre deux heures par semaine.
Mais pas les alcooliques.
Vous faites
et petit boulot pour s'en sortir,
et
pour payer le loyer.
Petit boulot de serveur, ouais, petit boulot de serveur, comme le étudiant.
Comme beaucoup d'actrices et d'acteurs.
Moyen, voilà, ouais. ouais. Et puis un drame familial aussi qui rend cette période très très compliquée. Donc ça fait une année au Cours Florent qui est pas très joyeuse et un premier contact avec Paris et la vie d'artiste qui me fait très peur pour commencer.
En 2010, Alexis Michalik.
Je vous invite à mettre en soirée.
Vous enchaînez.
Non,
après Gazonga, vous mettez Matt Houston.
Voilà. Faut écouter son message, hein. Restez positif dans vos têtes. Faut pas oublier. Oh, oh, oh.
Voilà, exactement.
Moi, j'adore les auteurs. J'adore les textes. C'est surtout ça qui me fait,
vivre.
Qui me fait aussi. Vivre.
Et grâce au désistement d'un auteur, justement, finalement, vous arrivez, comment dire, comme le porteur d'histoire. Né en fait d'une certaine façon.
Absolument, très juste, c'était un accident en fait au Théâtre 13 qui est aujourd'hui le Théâtre Le Pic, il y avait un festival de création contemporaine et mon ami Benjamin Belcourt qui
est mis en capsule,
bon producteur.
Toujours
ça existe toujours
ouais. Je crois que c'est, je sais pas si
c'est si.
Toujours mais
si. Oui, il y a deux ans. En okay. tout cas, ça existe ouais. encore il y a deux
ça
ans.
Ça existe encore il y a deux
voilà,
ans.
On va dire
donc
ça.
Je sais pas si ça existe toujours mais du coup oui du coup il m'a dit ah bah j'ai un auteur qui m'a lâché et c'est pour faire trois dates là j'ai un créneau, c'est dans un mois, tu peux me faire un truc vite fait. J'ai dit ouais, bah, je vais voir ce que je peux faire. Voilà, c'était le porteur d'histoire qui se joue encore aujourd'hui pour le coup, hein, après 4000 représentations. Et l'auteur, c'était Nicolas Bedos. Alors, est-ce qu'il y a un lien de corrélation entre la suite de sa carrière et ça, je ne sais pas. Mais en tout cas,
et le ski nautique,
ça m'a bien profité.
Florent Bern, vous écoutiez en 2011.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. Ouais. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul.
Non, c'est pas
Houston,
ça.
Moi, bref. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu
qu'est-ce
voir
que vous aimez chez Brel? C'est l'interprétation justement, parce que c'est là où on voit que plus qu'un chanteur est très bon acteur.
Il y a une intensité d'interprétation ouais. évidemment. Bon, je sais pas.
Comme Aznavour, ce sont des interprètes quoi, ils jouent.
Les textes sont et pas. Et des textes, c'est pas écrit. Voilà, ouais. moi si je l'avais là, je dirais deux mots, mais non, mais c'est tellement bien écrit. Et puis c'est comme effectivement comme Aznavour, c'est des chansons qui sont des histoires,
ouais.
des films. Donc on part et cette chanson là, je me souviens me la mettre. Dans mon casque et sillonner Paris et me dire je suis là il y avait enfin je sais pas c'était fou quoi j'avais l'impression d'en être un peu quoi et Brel mon père me l'a fait découvrir très jeune et je n'ai cessé de l'écouter.
Et c'est la télévision qui...
C'est ça, l'émission On ne demande qu'à en rire de Laurent Ruquier sur France 2 qui vous révèle au grand public avec un moment un peu dur, une blessure en plein direct, ce qu'on ne vous souhaite pas sur scène. Bon. Bah ouais, le tendon d'Achille...
C'est hyper fragile quand même.
Le tendon d'Achille qui lâche.
Fragile. Tendon d'Achille, ouais.
C'est vrai,
je me suis pété le tendon d'Achille au cinquième passage, sachant que... Bon, c'est une grosse blessure déjà. L'émission balbutiait, c'était pas... Donc chaque fin de semaine, en nous disant, c'est pas si l'émission va durer. Moi, c'était ma... porte d'entrée, enfin, je le savais pas à l'époque, mais j'espérais que ce serait ma porte d'entrée vers plus grand, plus haut, plus fort, comme, comme dit Coubertin. Et donc, cinquième semaine, je me pète le tendon d'Achille en faisant un sketch où je faisais un retraité du cirque. Donc, en plus, quand je me suis pété le tendon d'Achille en direct, tout le monde croyait que, donc, ça fait quand même mal.
Qu'est-ce qu'il joue bien?
Oui. Il dit, oh là là, il joue bien la douleur. Il a très mal. Et après, on remontait les escaliers pour aller prendre nos notes. Et quand je monte les escaliers, bah, je sens mon pied qui fait
Qui est nos notes?
Qui bandouille?
Et voilà. Et donc derrière, on se dit, bon, mais c'est foutu. Je l'ai entendu. Hein. Et tu me mets une batterie tout de suite. Allez, hein.
Et la France, on a entendu Nayi. Ouais, cache-toi.
C'était au Moulin Rouge, donc ça tournait en plus.
Ouais, ouais, vous avez vu comme il fait diversion. Ah, ouais.
C'était au Moulin Rouge, alors ouais, oui. Et puisqu'on parlait beaucoup de Moulin Rouge
mais,
tout à l'heure,
ouais, c'était au Moulin Rouge. Tourné au Moulin Rouge. Donc c'était aussi, moi, ça rajoutait au rêve d'être là-bas, quoi. Mais, et donc, y a, ça s'est rajouté la peur de ne pas revenir et à temps et te dire, bon, mais j'ai raté le train, je reviendrai jamais dans l'émission. Donc je suis revenu très vite en béquille et tout pour pas qu'on m'oublie. Et puis ça, bon,
ça a fonctionné. Ouais. Ouais. Oui. En 2016, Alexis Michalik, vous écoutiez. Là, ça plombe un peu la soirée. Hein. Si vous mettez ça, après,
ça dépend ce que t'as pris.
C'est pour vider les gens, pour que alors, les gens partent.
C'est quoi cette chanson alors?
Kiyu Sakamoto.
Kiyu Sakamoto, c'est un chanteur japonais donc qui chante du jazz. Ça vous fait rire le fait qu'il soit japonais?
Non, c'est pas ça.
D'accord.
J'ai fait un lapsus.
Et en fait, il a une histoire complètement tragique. Il est mort jeune dans un accident d'avion cultissime au Japon, puisque c'est un Boeing 747 qui a pendant 20 minutes a perdu une partie de son fuselage et il a essayé de survoler. Il a fini par s'écraser. Tout le monde est mort dans ce cas. Il y a dont ce chanteur. Très belle chanson. Voilà. Un petit peu de culture ne fait jamais de mal.
Non, mais qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? C'est sa mort,
de souvenirs personnels que je vais pas, sortir ici, mais c'est lié à plein de choses.
Non, mais vous parlez de l'accident qui n'a pas de rapport direct
avec ma vie à ce moment-là.
La musique, oui. Alors pourquoi cette musique-là en particulier?
Bah parce que j'écoutais ça à ce moment-là, parce que la mère de ma copine à l'époque adorait ce morceau et voilà. Et du coup, je l'écoutais un peu.
Et c'est Edmond à cette période-là sur scène. Edmond qui va ensuite devenir un film, mais au début, c'est une histoire qui commence au théâtre du Palais Royal, c'est ça?
Tout à fait. Enfin non, à la base, ça devait être un film. C'était un scénario que je développais. En espérant le monter, et puis bah forcément tout le monde nous disait ça n'intéressera personne, et puis un jour j'ai fini par me dire bah pourquoi je le ferais pas au théâtre d'abord.
Comment la création de Cyrano de Bergerac s'est faite?
Tout à fait, et d'une manière un peu comédie, un peu façon Shakespeare in Love, on l'a fait au théâtre du Palais Royal, merci Francis Nani, Sébastien Azopardi, et ça se joue d'ailleurs encore aujourd'hui, et grâce à ça.
Comme beaucoup de vos pièces, hein, faut le préciser. Florent, vous écoutiez Célassou.
Oui.
Avec cette version de Section d'Assaut. Et ce ragamuffin, et là c'est le cinéma qui appelle
ça.
Grand-père.
C'est Red Ding de Danny Boone, où vous incarnez un agent du Red dans cette comédie.
Et là vous blessez au coude.
J'imagine avec plein d'entraînements, de cascades, etc. Oui. Vous devez vous y donner à cœur joie.
Ah, complètement. Ouais, c'était génial, quoi, parce que c'était mon premier film.
Ouais.
C'était Danny Boone qui me l'offrait et qui fait partie des humoristes qui ont bercé mon enfance, que j'ai admiré, que j'arrivais de rencontrer. Et voilà, et donc c'était trop chouette. Et en plus, effectivement, en étant en contact avec les policiers du Raid, je me suis pas entraîné avec eux, mais j'ai appris un peu de combat, parce que j'avais une scène de combat. Bon, on avait réglé peut-être 5 minutes de chorégraphie avec Alain Figlars, qui était le régleur de cascade, qui est fou allié, mais qui est vraiment génial. Et il reste évidemment 5 secondes à l'écran, mais c'est pas grave. Et donc j'ai vécu apprendre à manier des armes, apprendre à se battre, aller dans les locaux du Raid pour voir un peu comment. Je composais un vrai personnage, je fabriquais mon. J'étais en formation, quoi. Donc c'était comme je fantasmais, comme je rêvais le métier d'acteur, et dans mon premier film, on me l'a offert.
Nous recevons et nous allons reparler des producteurs. Laurent Vallière, c'est producteur justement et s'y connaît en comédie musicale. Vous avez consacré, vous avez une émission 42e rue tous les dimanches à 12h consacrée à la comédie musicale. Est-ce que les producteurs est la comédie la plus primée, la plus...
Elle en récompensée. Elle en a reçu 11 lorsqu'elle a été créée à Broadway par Mel Brooks. Effectivement, à l'époque, c'était un record. Oui.
Elle est toujours à l'affiche ou pas?
Ah non, elle n'est plus à l'affiche. Elle est restée très longtemps. Non, elle n'est plus à l'affiche.
Elle est à l'affiche à Londres, en revanche, là, cette scène.
D'accord. Et Broadway, alors il y a le on et le off, un peu comme Avignon, c'est ça? Il y a deux Broadway.
Bah, en fait, pour être un théâtre à Broadway, il faut avoir plus de 500 places.
Et il y en a. Ah, c'est la règle.
C'est ça la règle.
Ok, d'accord.
Et il y en a 41 à Broadway comme ça.
500 places.
Et 500 places. La plupart des théâtres, c'est pas comme à Paris. Ils ont vraiment la place pour aussi mettre un orchestre. À Paris, si vous regardez le nombre de théâtres, il y en a très très peu qui peuvent mettre un orchestre. Et c'est pour ça aussi que c'est compliqué de faire des comédies musicales.
Mmh. Alors c'est le cas du théâtre de Paris en l'occurrence avec ce véritable orchestre. Broadway, c'est un nom évidemment qui fait rêver. Est-ce que il n'y a que des comédies musicales qui s'y jouent? Il peut y avoir aussi des concerts ou une pièce de théâtre.
Ah, il peut y avoir surtout des pièces de théâtre. En fait, c'est moitié-moitié. Mmh. L'an dernier, je crois qu'il y avait 40 nouveautés. Il y en avait 20, c'était des comédies musicales, et 20, c'était des pièces de théâtre. Et ça peut être, par exemple, George Clooney qui joue, ça peut être Keanu Reeves qui joue, ça peut être Meryl Streep qui joue. C'est ce qui est très impressionnant à Broadway, c'est qu'ils ont les moyens de mettre l'argent pour faire venir des stars. Mmh. Si vous vouliez aller voir George Clooney dans sa pièce de théâtre, Good Night and Good Luck, c'était à peu près $400 le prix de la place.
Alors, c'est déjà, oui, quand vous dites que les producteurs ont les moyens, c'est que c'est extrêmement cher d'aller au spectacle à New York.
Ça coûte cher.
Ouais.
Ça coûte le prix enfin, moyen.
À New York et à Londres aussi. Hein,
c'est beaucoup moins cher à Londres.
Plus à New York.
À Londres, ouais, vous pouvez aller voir des spectacles pour peut-être 30 euros, on va dire. À New York, c'est...
Derrière le poteau, mais sinon, c'est...
Non, vraiment pas, vraiment pas.
Okay, d'accord.
Mais à Broadway, par contre, le prix moyen des places, c'est $127. Et encore, les producteurs vous diront que même avec ça, ils n'arrivent pas à remplir, à faire des profits. Parce qu'une comédie musicale à Broadway, ça coûte au bas mot, si on veut, au minimum, faire un beau spectacle avec un grand orchestre chaque soir, des danseurs, des beaux décors, et un plateau tournant, ça coûte au minimum $20 millions.
Mais les affiches de Broadway sont folles, c'est là qu'on trouve des superstars qui vont venir exceptionnellement pour, pour jouer leur pièce.
Exactement.
Mais pardon, parce qu'il y a le budget aussi pour le cachet.
Mais c'est le prestige de Broadway, c'est la légende de Broadway.
Avoir une star aussi, ouais.
Alors comment est né Broadway? Ça a commencé par un théâtre, deux théâtres, trois théâtres, ou immédiatement il y en avait énormément?
Ah non,
ça date de quand?
Au départ, ça date de 1895. Le premier théâtre s'appelait l'Olympia Theatre, un théâtre énorme avec quatre théâtres à l'intérieur, 6000 places créées par le grand-père du roi de l'âge d'or de la comédie musicale. Vous savez, la Mélodie du Bonheur, ça a été créé par Oscar Hammerstein. C'est quelqu'un qui était un génial auteur de comédie musicale parce qu'il savait aussi bien écrire un livret, donc les dialogues, que les chansons, ce qui est un truc déjà compliqué. Normalement, vous avez un auteur de livret, un dramaturge, un parolier, un compositeur.
Auteur et compositeur.
Il n'était pas compositeur, il était juste déjà... il écrivait l'histoire et il écrivait les chansons. Et déjà, c'était un gros travail.
D'accord.
Et son grand-père est le fondateur, en fait, de tous ces théâtres qui ont commencé à éclore à Broadway à la fin du 19e siècle. À l'époque, c'était un quartier, on va dire, de tripots, de prostituées, de rues un peu sales. Les théâtres, au départ, parce que New York s'est construit un peu comme ça au 19e siècle, au départ, les théâtres étaient plutôt dans le bas de la ville. C'est au fur et à mesure qu'ils sont arrivés dans ce quartier. C'est devenu Times Square parce que le New York Times s'est installé là. Ils ont demandé de renommer cet espace-là
mais par
Times Square.
Mais c'est-à-dire que le journal a demandé en pub que la place devienne le nom du journal.
Times Square.
Sans blaguer.
Avant, ça s'appelait le Long Acre Isle Square.
Ok.
Et après, il y a eu... À une époque, il y avait 120 théâtres dans le quartier de Broadway. Donc,
À Paris aussi, on peut dire que les grands boulevards, enfin, il y a aussi un quartier de théâtre
oui,
à Paris.
Plus,
même, c'est plus éclaté.
C'est plus éparpillé, voilà.
Il y a Montparnasse aussi, il y en a un peu partout. Mais
ils ne sont pas aussi grands.
Ouais.
Parce que là, vraiment, ils sont tous très grands. Il y avait un empire, c'était les frères Schubert. Je crois qu'ils avaient une cinquantaine de théâtres à l'époque.
Alors, est-ce que les pièces se renouvellent extrêmement souvent ou est-ce qu'ils restent plusieurs saisons
Le secret d'une comédie musicale, c'est pas Alexis Michalik que je vais apprendre ça, c'est... ça coûte tellement cher que le plus longtemps ça reste et le plus longtemps c'est profitable.
On
par
amortit,
exemple.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Donc Chicago qui est à l'affiche depuis 1996, ça fait 30 ans celui qu'on peut voir à Paris là. Ça fait 30 ans que c'est à Broadway. Le Roi Lion, ça fait 25 ans. Et Alexis Michalik, si les producteurs...
52 ans moi. Hein
en fait, donc il y a un renouvellement. Le fantôme de l'opéra est resté très longtemps, mais c'est vrai que chaque année il y en a 40 nouvelles en fait. 40 nouvelles pièces ou comédies musicales qui sont à l'affiche. Mais... vous savez, s'est lancé avec des millions de dollars de budget, et puis Betty Boop, par exemple, qui a été lancé, que j'ai eu la chance de voir à Pâques, bah, en juillet, c'était fermé. Où il y a plein de comédies musicales comme ça, au bout de 3 mois, si jamais le théâtre n'est pas suffisamment rempli, ils ont des taux de remplissage. Si c'est en dessous de 90%, bah, le producteur, il arrête, parce qu'il perd tous les soirs de l'argent.
90%. Laurent Vallière, c'est un puits de connaissances sur ces comédies musicales. Il y a une nouvelle édition de 42e rue, la grande histoire des comédies musicales aux éditions Marabout. Et l'histoire secrète des comédies musicales sera diffusée ce 29 novembre sur M6 à 23h35. Et on le retrouve sur France Musique dans 42e rue, donc tous les dimanches à midi. Merci Laurent.
Merci à vous
d'être venu à ce micro. Voici l'hommage d'Emma Beaujolas.
Hello. Bonjour tout le monde. Alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui j'ai décidé de rendre hommage au feu. Le feu qui brûle comme notre amour, qui se consume tel des flammes incandescentes et cette chaleur... Pardon Daniel, mais casse les couilles ton poème en fait. Je suis désolée, fin, tu diras à maman, nous ici on s'en fout. Petit contexte, il bouillave ma mère. Alors le feu ça fait peur et à raison, j'y ai été confrontée récemment, c'est terrifiant. Il faut que je vous raconte, en fait la dernière fois que je suis partie en vacances, je suis allée chez les grands-parents de mon copain. Petite parenthèse, ses grands-parents sont monténégrins. Voilà, c'est-à-dire qu'ils viennent du Monté... Non, ne le dites pas. Non, vraiment, les micros sont allumés. Vous venez juste de dire le N-word à l'antenne, alors je peux pas rattraper toutes vos dingueries de boomer. Bref, j'arrive sur place et moi je parle pas 3 mots de monténégrin, dans le sens où j'en connais que 2. C'est Doberdan, qui veut dire bonjour, et Pusti mi sednem ta voj velikinos, qui veut dire laisse-moi m'asseoir sur ton gros nez. Bon, c'est pas avec ça que je vais demander mon chemin. Et donc j'arrive, je rencontre les grands-parents et là je vous jure, d'un coup, bim, il y a le feu derrière la grand-mère, vraiment. Et je crie, il y a le feu, il y a le feu. Ce qui en monténégrin veut dire rien du tout. Et alors, moi d'ailleurs, c'est la première fois à ce moment-là qu'on s'est engueulé avec mon copain parce qu'on a eu peur. Et moi, je portais sa grand-mère à qui j'avais pas encore dit bonjour. On courait et je trouvais qu'il démarrait pas assez vite la voiture. Et puis j'ai compris plus tard dans le séjour que 2 minutes pour démarrer une Lada, en fait, c'est un record. Mais voilà, moi j'ai porté sa grand-mère et je courais. On aurait dit une nouvelle épreuve d'Interville, vraiment. J'imaginais Gilles Verdez commenter les images. C'est une honte. À quoi bon jouer les wokistes en retirant les vachettes si c'est pour intégrer le porté de grand-mère? Vous n'imaginez pas la situation. Je viens d'arriver à cet instant. Je suis arrivée il y a une seconde au Monténégro, d'accord ? Et je dois m'accroupir devant la grand-mère de mon mec et lui dire « Allez, montez sur mon dos, madame !» C'est absurde. Et surtout, les grands-parents, ils n'ont pas eu peur comme nous, parce qu'en fait, j'ai compris un truc, quand t'as connu la guerre, bah en fait, le feu, ça fait bof peur, tu vois. Et alors, n'empêche, on a eu peur, mais en fait, je me suis rendu compte que quand on a peur, on change totalement. On serait jamais engueulé avec mon mec, sinon. Et j'ai remarqué que c'est souvent l'inverse, je m'explique, c'est pas très clair, mais quand j'étais petite, une fois, moi j'ai mis le feu à ma chambre, parce que j'avais posé mon doudou sur la lampe de chevet pour le réchauffer, voilà. Oh. Bah oui, bah je suis désolée, Leïla, on n'a pas tous sauté des classes et gagné le concours kangourou, voilà. Excuse-moi, en fait, j'aurais cru parler aux mouches et qui mangeait de la colle. Mais bref, cette fois-là, mes parents, ils ont eu tellement peur qu'ils m'ont pas engueulé. Tu vois ce truc de parents où t'as tellement peur que tu dis rien, juste t'es soulagée quand ça s'arrête. Moi, quand j'étais toute petite, ça m'arrivait 3 fois. Il y a eu cette fois-là avec le doudou, la fois où ils m'ont perdu au zoo pendant 3 heures, et la fois où je me suis faite pincer pour avoir monté un système de Ponzi, une arnaque pyramidale avec le lait fraise de la crèche, une dinguerie, sale histoire. Bref. Et en réalité, moi, je rends hommage au feu aujourd'hui parce que c'est une représentation très importante pour moi dans ma vie. Il y a quelques années, j'ai rencontré une amie qui, d'ailleurs, avec le temps, est devenue une sœur et qui m'a proposé de vivre comme si je mettais le feu à la peur. Après ça, je suis montée sur scène, j'ai fait des vidéos, j'ai décroché à l'appel de France Inter et là, je suis même en train de parler à 2 millions de personnes. Je fais des blagues sur des sujets, pas parce que ça me fait rire, parce que ça me terrifie. Et je crois que c'est vraiment ça mon métier, de mettre le feu à la peur. C'est à ça que je rends hommage aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.
Merci.
Emma sur scène,
ah oui,
le vendredi à 21h au théâtre des Mathurins, s'il vous plaît.
Le feu dans la salle au théâtre de Paris, qu'est-ce qui a été le plus difficile, Alexis Michalik, en montant cette pièce? Mais pas forcément cette saison, dès le début.
C'est difficile.
Ouais, c'est le casting, c'est.
Florent, il fait beaucoup de jeux de mots quand même. Donc il faut. Faut les tenir.
Mais est-ce qu'il y a de la place à l'impro, Florent Père?
Non. Si, en plus tu me mens. Quoi? Tu viens de faire ta petite blague qui marche tous les soirs depuis, depuis une semaine, qui du coup là maintenant va falloir adapter.
Okay. Hein? Mais c'est collectif.
Je ne l'ai pas.
Non, franchement.
Il a rebondi sur l'actualité.
Je ne vois pas de quoi vous parlez. Écoutez, bref. Non, mais.
Ok.
Moi, j'ai le one man pour faire
vous défouler
et, ouais. Et être totalement libre parce que c'est mon texte ou un texte que j'ai coécrit, une mise en scène que j'ai co-créée et tout. Donc là, je me sens totalement libre. Quand je viens dans une pièce de théâtre ou dans une comédie musicale, j'ai pas cette obsession de vouloir.
Non, vous avez dit ce que vous aimez, c'est le partage.
Ouais. Donc la troupe, je suis avec la troupe. Si on me laisse, si là on me dit vas-y, je le fais. Mais voilà.
Les producteurs au théâtre de Paris, on en parle jusqu'à 12h30. De quoi vas-tu nous parler, Tanguy Passureau?
Des concours de gifles, c'est cartonné aux États-Unis, ça arrive en France, c'est consternant, yes. Bien sûr. Ah oui.
On en parle après les infos. Avec Moitié et Marouzante.
Bonjour.
Paul Delaf, Tanguy Pastureau, Daniel Mont. Et nos invités, Florent Beuil, Alexis Michalet. Oui.
France Inter, la bande originale. Leïla Kadour et Nagui.
Florent Père à l'affiche avec la mise en scène d'Alexis Michalik. Alexandre Fetrouni est également à vos côtés. Régis Vallée, Julien Mior, Andy Coq, Roxane Texier, Alexandre Bernot, Véronique Attat, oh. Pablo Bruno et Lina Stolz. Et puis il y a tous ces musiciens, Thierry Boulanger, Olivier Ronfard, Benoît Dunoyer, Franck Stécard, François Chambert, Jean-Pierre Solvès et Jean-François Kellec.
Bravo.
J'insiste pour le faire parce que c'est vraiment ce côté.
Je vais citer Laura Ben-Simon, qui est mon assistante et qui a vraiment refait la mise en scène. On va pas se mentir. Un gros bisou.
Ça veut dire quoi, la refaire?
C'est-à-dire que comme c'était une reprise, elle était beaucoup plus là que moi pour former les comédiens refaire les mêmes choses.
Quoi. Très élégant de le
souligner. Moi, merci de le faire. Ça me permet de connaître le prénom de mes partenaires. Moi, je suis pour la vie en troupe. Hein. Je suis pas le gars de One Man qui arrive isolé.
C'est pour ça qu'on vous a pas gardé dans la bande originale. C'est uniquement pour cette raison. Donc c'est producteur au Théâtre de Paris avec, on l'a dit tout à l'heure quand même, cette épée de Damoclès de dire est-ce que l'on remplit la salle, est-ce que j'imagine que chaque soir, est-ce que c'est, peut-être pas tous les soirs, c'est un gros succès, mais est-ce que vous posez la question, Florent, en arrivant, alors c'est comment ce soir, il y a du monde, il n'y a pas de monde, ou alors vous êtes sûr que c'est blindé, et c'est plus de dire à des potes, j'ai pas de place, désolé.
Non, je vais pas
non, mais est-ce que c'est un enjeu en tout cas quotidien? Oui.
Oui, bah de toute façon, quand vous jouez au théâtre le soir, vous aimez savoir si il y a du monde qui vient vous voir, bien sûr. Par rapport au one man, là, moi, je suis tellement heureux d'être sur scène, qui est 600 ou 1000 personnes.
C'est un grand théâtre, le théâtre.
C'est 1000, un peu 1100 places, 1100 places. Donc, je suis vraiment heureux. Moi, Enfin, c'est un rêve que je vis, et le peu de temps que je passe hors de scène chaque soir, là, j'ai deux fois cinq minutes en coulisses, je bois de l'eau et après je suis là et je les regarde et je me dis mais je suis avec eux, je suis vraiment avec eux. En fait,
et physiquement, vous allez tenir, parce que sur la durée, on peut tenir combien de représentations à ce rythme-là? Faire des claquettes, chanter, danser, jouer,
Il y en a qui font ça plusieurs saisons.
Non,
hein,
mais
y a une vie qui va avec. Franchement, le monde de la comédie musicale, c'est le monde des besogneux, des travailleurs, des rigoureux. Il n'y a pas de fumiste dans la comédie musicale. Et y a la vie qui va avec. Et c'est pas un sacerdoce, mais il faut.
Hygiène.
Moi, je m'étais dit que je travaillerais la journée, que j'écrirais, que je préparerais le prochain spectacle. Je dors, je m'étire, je vais voir notre ami Bruno Dacruz qui me...
Le kiné que l'on embrasse.
Le kiné qui me masse, qui me... Voilà. Et j'attends le soir pour avoir toute mon énergie et j'ai la... concentre sur le soir et je me rends compte que tout le monde fait ça.
Le défi Alexis Michalik, c'est d'atteindre un nombre de représentations qui calme, qui tue le game, comme on dit, parce que là, déjà, trois saisons, hein, c'est ça?
Si on cumule, on a fêté la 400e, là, donc...
J'ai fêté la 400e alors que j'avais joué que 22 fois.
Exactement, c'est pas mal ou pas?
C'est pas mal.
Quel performeur!
Alors
quel performeur!
C'est beau.
Wow.
On va espérer faire toute l'année et puis Inch'Allah, une tournée l'année prochaine, sûrement.
Alors ça doit être, si je peux me permettre, lourd de partir en tournée, c'est-à-dire tous les décors, il faut trouver déjà des théâtres capables d'accueillir.
C'est plus lourd que mes jeux de mots, hein. Vous savez ça, à monter.
Il y a combien de décors en tout, je ne me rends pas compte, parce que
je remercie mon assistante, je vais tout préparer.
Ça joue beaucoup sur les...
Exactement.
Ça joue beaucoup sur les lumières, ça joue beaucoup sur des...
Il faut réinventer le décor parfois, parce que là, nous, on joue avec ce qu'on appelle des cintres, c'est-à-dire qu'on a des décors qui se lèvent un peu de façon magique dans
dans le plafond.
Dans le plafond, et tous les théâtres ne sont pas équipés de cintres, donc il faut parfois réinventer le décor, donc ça a un
même
coût
aussi.
Même dans
les loges, hein. Des fois, il n'y a pas de cintre.
Allez, non, au revoir. Non, non, non.
Allez, une batterie, mets-moi une batterie.
Non, non même, même pas. C'est quoi,
tu, ah non, tu, pas loin, loin.
Non,
le
non,
loin,
si.
Ah ouais, voilà.
Ça c'est la finition extrême. C'est la finition.
Je bois un peu d'eau, je bois. Voilà, et c'est ça toute la journée. Hein. Vraiment, il s'arrête pas. Il a toujours de l'inspiration.
Heureusement qu'il a un texte, parce que là, ça devient drôle. Ça s'appelle Les Producteurs. Et c'est au Théâtre de Paris. Voici Tanguy Passereau.
J'ai pas de problème avec la virilité, je crois que malgré moi j'en suis le symbole, mais le virilisme, j'ai plus de mal. Vous savez, cette virilité surjouée bestiale avec des mecs qui tapent, quoi. L'autre jour j'ai regardé Envoyé spécial avec Élise Lucet, cette dame qui harcèle des gens en les suivant dans la rue alors que certains n'ont détourné que 17 millions d'euros ou ont laissé des produits polluants passer de leur usine jusqu'à un cours d'eau, mais par inadvertance, parce que les gens sont gentils. Source, mon neveu qui a 3 ans, on lui a pas encore dit pour Adolf Hitler ni pour Betarame. Hein, et même certaines reprises que M. Pokora a pu faire par le passé, on a occulté. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé Envoyé spécial, par désintérêt pour l'humanité principalement, mais là je l'ai fait à l'ancienne, comme en 93. J'ai pris la zapette, j'ai appuyé sur le 2, j'ai attendu le début de l'émission, jusqu'à ce qu'Élise Lucet apparaisse, l'œil vicieux, le visage fermé, toujours plus effrayante. Et là, alors que je regardais en me cachant un œil et en disant elle va sauter à la gueule d'un patron voyou et l'écorcher vif, Élise Lucet a lancé un reportage sur les combats clandestins. C'est un phénomène en pleine expansion en France, contrairement au centrisme. Des types se réunissent dans une usine désaffectée, par exemple, donc toutes les usines en France, et ils se battent à main nue. La règle étant qu'il n'y a pas de règle. Et le gabarit des gars, c'est pas Lily Rose Depp. La moitié sont des Moldaves, avec des pectoraux plus gros que leur cerveau, et parfois un aigle tenant une croix gammée tatouée sous le sein droit. Même à Octobre Rose, on n'a pas envie de les palper, quoi. L'aigle, depuis les nazis, vous le savez, est associé à la croix gammée, parce qu'il fallait que ça fasse peur. Vous mettiez la croix gammée et au-dessus un hamster en train de se gratter, voilà, bon, ça aurait été moins redoutable. Les combats clandestins, 2 fois sur 3, ça se termine en commotion cérébrale. Les types rentrent à la maison, ils sont totalement cuits mentalement. Même la question SMS de tout le monde veut prendre sa place, la Joconde a été peinte A, par Léonard de Vinci, B, par un gardien de parking Vinci, ils répondent parking, hein, parce que bien sûr, ils n'ont plus de dents. C'est-à-dire qu'un suprématiciste danois, alors qu'il disait pouce, les leur a tout éclaté d'un coup de tête. Ils ont juste vu la croix celtique tatouée sur son front arriver vers très vite, et ça a été le blackout. Ensuite, Élise Lucet est revenue à l'image et comparée à ses brutes, elle paraissait douce, mimi. Je l'ai attendue 6 heures devant France Télé pour lui faire un câlin et elle n'est jamais venue. Bon, j'ai frotté de la housse. Hein, on repart jamais perdant de France Télé. Et en fait, vous voyez, on est effrayant qu'à côté de gens qui le sont moins, finalement. Joe Starr, quand il est en soirée avec des petits acteurs épilés qui font 42 kilos, ben on se dit, il va nous croquer, on a peur. Mais vous le mettez à côté de Stanislav, dit la bête, l'homme de main de Vladimir Poutine qui a déjà lancé par-dessus leur balcon 700 opposants. Eh ben, Joe Starr, c'est un chaton. Et hier, j'étais sur Internet, je regardais des vidéos de violence verbale, vous autres appelez ça polyphonie corse. Pour cela, je suis tombé sur un article à propos des combats de gifles. Alors, comme toutes les débilités, ce phénomène est né aux États-Unis, à Las Vegas, précisément, la ville où on s'enfile 12 shots de tequila avant de se marier avec une passante, hein, devant un curé déguisé en Spider-Man. Bon. Le combat de gifles arrive en France. Alors, le concept est basique. 2 hommes, mais avec des poils, hein, des vrais, qui sentent, hein, si Alain Souchon vient leur dire qu'ils peuvent faire parler à leur sensibilité, ils le défoncent. 2 hommes se donnent des gifles les plus fortes possibles. Mais là encore, le souci, c'est que ce sont pas des mains qu'ils ont, ce sont des planches. C'est-à-dire que vous leur foutez dessus de la charcuterie du fromage, vous servez ça pour 22€ dans un bar à vin, quoi. Le gagnant est celui qui reste debout. Moi, avec l'âge, j'ai déjà de plus en plus de mal à rester debout sans qu'on me gifle. Alors attention, il y a des règles, c'est 3 gifles chacun. Et l'adversaire n'a pas le droit de se protéger. C'est-à-dire qu'ils sortent de là avec les doigts de l'autre tellement marqués sur la peau qu'ils peuvent déclencher son iPad en collant la joue dessus. Certaines claques, techniquement, ça ressemble à votre VTC quand il arrive. Vous lui faites signe, mais il est sur son téléphone, il vous voit pas, il vous roule dessus. Alors évidemment, je vais encore passer pour un fragile, un poète, mais je peux pas être pour cette violence, parce que, tiens, France Info, il a consacré un reportage, vous voyez, ils se sont rendus à Las Vegas, avec nos impôts, Sarah Knafow va les pendre. Ils sont allés interviewer des spectateurs, alors bien sûr, on se doute qu'on n'est pas sur des gens délicats, hein, très peu d'individus là-dedans rêvent de voir sur scène un duo Vincent de Dienne, pomme, quoi. Mais la phrase qui revient le plus, c'est sympa de voir des gens se faire mettre KO. Les mêmes vous diront peut-être, c'est cool de voir un taureau agoniser dans une arène, ou j'ai hâte de voir le score du PS à la présidentielle. Bon, que des bas instincts qui se rapprochent de l'idée qu'on se fait de la destruction de l'autre. Bien, alors inutile à ce stade de vous dire que les neurologues sont consternés. Selon eux, 80% des participants souffrent de lésions cérébrales. Mais surtout, ce que moi je remarque, c'est que les jeux du cirque à Rome, Ben, on y est toujours, finalement. Il n'y a plus les lions. Ça fait comme les vachettes à Interville. Mais sinon, le principe est le même. Une foule en liesse qui jouit de voir des personnes se taper dessus jusqu'à peut-être la mort. Donc moi, je veux bien qu'on ait des pulsions de violence, mais on devrait avoir appris, au lieu de taper, au lieu d'en faire un spectacle, on devrait avoir appris à les gérer, à se calmer. Nous avons l'appli Petit Bambou, les albums du groupe Nouvelle Vague. Enfin, je veux dire, écoutez, Fip, moi, je le fais, je vais bien. Une rumba, un peu de free jazz, une voix chaude qui me dit qu'il est 16h. Mes pulsions s'en vont. Même la boxe, j'ai jamais compris, franchement, le MMA et même le lancer de javelot, j'ai pitié pour l'herbe. Je sais que les gens qui font ça sont volontaires et il y a aussi des pauvres qui n'ont que cette voix-là pour s'en sortir. Bernard Arnault, on l'a assez peu vu dans un octogone. Mais option pas populaire, hein, mais en tout cas, c'est la mienne. Arrêtons tous ces sports à la con, les sports de combat et faisons-nous des bisous. Merci.
Merci.
Bisous, le
20
à la Gaîté, théâtre Rive Gauche. Pour son nouveau spectacle, formidable.
Très bien. Spectacle formidable, comédie musicale de Mel Brooks, les producteurs sur scène au Théâtre de Paris, avec entre autres Florent Père et une quinzaine d'acteurs, d'actrices, de danseurs, danseuses et de musiciens, et une demi-douzaine de musiciens également, tout ça en live, mise en scène par Alexis Michalik. D'autres événements
oui.
culturels, Leïla.
On cherche une série, un thriller politique dont la troisième saison, qui était très attendue, est sortie en octobre.
La Diplomate.
Bravo Daniel, ah. Mais j'adore Daniel. C'est Daniel, on va parler.
Mais il a pas de vie, il a pas de vie.
Mais j'adore cette série. Kerry Russell, vous vous souvenez d'elle pendant 6 saisons, elle avait été The Americans.
Ah oui.
Tu sais ce couple d'espions du KGB sous fausse identité, très très bien intégré aux États-Unis, qui tuait sans relâche le soir, qui rapportait des informations. Et bien là, cette actrice incarne Kate Wyler, une diplomate américaine qui est nommée ambassadrice à Londres. Poste prestigieux, trop prestigieux presque, parce que c'est souvent des postes qui sont attribués à des soutiens de campagne de président. On comprend dans la série que certains ambitionnent pour elle de faire d'elle une vice-présidente américaine. À ses côtés, un mari très encombrant, un ambassadeur lui aussi qui a de grandes ambitions, notamment lui pour aller directement à la Maison Blanche. Ça donne The Diplomate, il y a 3 saisons, c'est sur Netflix. C'est à la fois un thriller politique, diplomatique, mais aussi l'histoire d'un couple face au pouvoir, qui laisse sa place à l'autre, comment est-ce que on gère aussi les ingérences étrangères. C'est super bien comme série et c'est très réussi, d'autant plus que Kerry Russell, j'ai l'impression que c'est une actrice à série qui a eu l'occasion, grâce à ses The Americans ou The Diplomate, de décliner un personnage au long cours. Est-ce que ça, pour un comédien, c'est un fantasme, une envie, un rôle récurrent, un rôle comme ça qui nous permette peut-être de montrer davantage? Oui. Alexis.
Moi, j'ai fait de la série plusieurs fois, j'adore ça. J'étais en Kabul Kitchen il y a quelques années, ouais. Versailles aussi. Ouais, j'adore. Là, je viens de faire un nouveau truc cet été. Mais non, moi j'adore la série.
Et est-ce qu'il y a d'autres genres? Parce qu'en France, j'ai l'impression, il y a quand même beaucoup de séries liées à l'enquête, que ce soit un policier, un gendarme, un détective, un légiste. Moi, à titre personnel, je n'en peux plus.
Mais je crois que les Français, par contre, ils sont encore très clients.
Mais ça fonctionne très très bien.
Ça cartonne.
Mais vous, qu'est-ce qui pourrait vous donner envie de vous engager au long cours dans une série?
Ça dépend comment c'est traité. Hein. Si on regarde White Lotus, je suis pas scénariste, mais ça commence quand même avec un meurtre dans un hôtel. Qui a tué? C'est quand même exactement la même chose qu'une série policière française.
Oui, après, il y a bien d'autres séries où il n'y a pas de mort, mais enfin.
Non, mais je veux dire, ouais,
ça dépend de la qualité des
créatures. Après, ça dépend comment c'est fait.
Exactement.
Mais bon, je ne vais pas citer d'autres.
Mais il y a beaucoup de sexe aussi qui vient.
Mais moi, j'adore White Lotus. Mais
sur le papier,
oui.
Il n'y a pas que ça.
C'est sûr.
Dans White Lotus,
est-ce qu'il y a d'autres genres que le policier pour aller un peu.
Bah oui, voilà, Kabul Kitchen, c'était de la comédie politique. Il y a plein de trucs. Déjà, de la comédie, c'est rare d'avoir des séries de bonnes comédies. Dit. Et puis après, bon, effectivement, pour que Nagui regarde, il faut du sexe.
Voilà. Au point de vous donner envie d'en écrire une. Au point de vous donner envie d'en écrire une.
Si, si, bien sûr. Mais pour avoir été de l'autre côté de justement, ça prend. À l'époque, on avait écrit 1 ou 2 épisodes sur Kaboul, justement, et c'est tellement, tellement de boulot. C'est-à-dire que c'est écrire une pièce, c'est 1h30, hein, écrire un film pareil. Écrire une série, c'est des heures et des heures et des heures de programme. Et si ça marche, hop, il faut enchaîner direct sur la 2e saison. Non, c'est un gros enjeu.
Florent aussi? Un personnage récurrent, un profil comme ça, un personnage peut-être qu'on n'a jamais encore vu.
Oui, bien sûr, mais ce qui est agréable, effectivement, c'est que quand vous cohabitez avec un personnage plus longtemps que pour un film, c'est-à-dire pour une série, pour 6 fois 52 minutes, c'est 3 à 4 mois, 5 sur 7. Donc vous avez vraiment, et si vous avez bien travaillé en amont, et puis après vous passez beaucoup de temps sur le plateau avec ce personnage, il y a votre performance est meilleure. Enfin, d'un coup, vous le connaissez tellement bien. Quoi.
Ouais. Plus, il y en a plein qui ont arrêté aussi au bout de certaines saisons en disant je suis trop prisonnier de ce personnage,
bien sûr.
Il faut que je m'en sorte.
Trop identifié.
C'est déjà que ça a marché.
Oui.
Alf, par exemple.
C'est un problème de riche.
Qu'est-ce que Alf ? Oui, Alf. C'est Alf, un bon exemple, Tanguy Alf.
Et moi, c'est bon, j'aime ça.
Pas mal, vous faites tout.
C'est pas vraiment une question, c'est une recommandation cinéma. Un film qui sort mercredi prochain, Des preuves d'amour d'Alice Douard. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, à Cannes notamment. Le film commence par une archive sonore. On est le 23 avril 2013, l'Assemblée nationale adopte la loi Taubira qui permet aux couples de même sexe de se marier. Et dans ce film, un an après, on voit un couple incarné par Monia Chokri et Ella Rumpf. Monia Chokri qui avait réalisé récemment Simple comme Sylvain et Ella Rumpf qu'on avait vu dans le Théorème de Marguerite. Et bien ce couple attend un enfant. Alors on entre comme ça dans l'intimité de ce couple avec des problématiques qu'on n'imagine peut-être pas, parce que celle qui ne porte pas l'enfant doit montrer patte blanche pour voir la procédure d'adoption validée, c'est-à-dire qu'elle doit fournir une quinzaine de lettres des proches de la famille pour attester qu'elle a vraiment désiré cet enfant, qu'elle sera une bonne mère, ce qu'on ne demande pas à un individu qui porte un enfant, enfin une femme en tout cas. Et donc c'est un film qui est hyper beau parce que ça questionne aussi c'est quoi être une bonne mère, comment est-ce que se sent légitimement une bonne mère ou pas, et puis c'est suivre le parcours de ce couple ce sont nos voisines, ce sont des gens qui sont proches de nous sans savoir que la vie n'est pas forcément simple pour accéder à la parentalité. C'est juste mon coup de cœur. Des preuves d'amour d'Alice Douard, mercredi prochain, le 19 au cinéma.
Très bien, merci Leïla. Les producteurs dont on parle aujourd'hui, vous diriez, Alexis, que ça, c'est un spectacle, point.
Parmi tant d'autres.
Oui, non, c'est un spectacle, voilà, allez vous amuser, allez rire, détendez-vous, où il y a une lame de fond, il y a aussi des valeurs, un message.
Un message avec une certaine profondeur. Mm-hmm. Je dirais plutôt qu'il faut laisser un petit peu son cerveau au vestiaire et venir profiter. Non, disons quand le film est sorti en 67-68, forcément c'était assez, ça questionnait les limites de peut-on rire de tout, quoi, puisque c'était très proche de la Seconde Guerre mondiale et c'était ça le plus choquant. Aujourd'hui, forcément, il y a eu plein de films depuis qui ont un peu explosé ce genre.
Et ça reste très proche d'une montée de l'antisémitisme aussi.
Oui,
c'est-à-dire qu'on est malheureusement avec une histoire qui se répète et avec des frayeurs qui reviennent.
Oui, c'est vrai. Non, je pense que je ne sais pas s'il y a un message d'une profondeur extrême. Je pense qu'on est vraiment dans de l'humour de cartoon et c'est aussi ce qui est pas mal de temps en temps. Et c'est ce que nous disent les gens à la sortie quand ils ont aimé. Ils disent ça faisait longtemps que je n'avais pas vraiment débranché et juste ri et vu et rêvé, et vu les claquettes, les chansons, etc. Et eu la chance de voir Florent Père, quoi.
Très belle propos. Non, mais c'est un divertissement total.
Absolument.
C'est vrai, puisque
c'est un spectacle.
Live, ça chante, ça danse, ça rit fort. Franchement, c'est quand même très très drôle. Non, il faut venir.
Il faut saluer la prouesse aussi de certaines actrices, acteurs qui ont plusieurs rôles, qui se changent, qui reviennent, qui se griment, qui jouent différents personnages à différents âges. Enfin,
c'est aussi le lot de plein de par économie. Non, mais en comédie musicale, vous avez toujours des gens dans l'ensemble qui sont capables de faire 5-6 postes différents.
Bah, Véronique Attin, on a 3. Pablo Bruno a également 4 rôles. Lina Stoltz.
Mais ils se changent tous, hein, que ce soit très clair.
Non, mais
dès qu'ils sortent de scène, c'est pour un changement de costume. Y en a plein, y compris Alexandre Fetroni qui joue Léo Blum. Il arrive qu'au bout de 10 minutes en Léo Blum. Je peux vous dire que les 10 premières minutes, il est en train de faire autre chose. Il est dans les chœurs, il est derrière en train de danser.
Ouais. Mais, comme la mise en scène d'Alexis. Le nécessite, il faut déplacer aussi les décors, le mobilier, tout ça. Et c'est pas que les régisseurs qui font ça. Donc tous les comédiens, excepté moi, moi je mets un bouchon.
Mettre la main,
en chantant, ils ont peur que je me claque.
Et le son est bon et la lumière est belle aussi parce qu'on on cite évidemment les danseurs, les danseuses, les acteurs, les metteurs en scène, mais il y a une équipe technique du Théâtre de Paris qu'il faut saluer au passage parce que c'est vraiment une prouesse réalisée tous les soirs. Donc allez, quand je dis tous les soirs, ça se joue du
à part le lundi.
Non.
Ah oui,
merci. Pardon ?
Du mercredi au dimanche, deux fois le samedi, et en décembre, ce sera du mardi au dimanche.
Deux fois le samedi, là aussi. Dans quel état vous êtes, quoi ? C'est ouf.
Eh bien, figurez-vous.
Déjà, là, vous avez l'air bien entamé, là.
Hein. Ah ouais, bah, et pourtant, je me réveille. Hein. Je me lève, j'ai eu deux jours de repos. Non, mais de doubler, en fait, c'était très impressionnant. Et en fait, c'est un vrai kiff.
Ah bon ?
Parfait.
Bah ouais, parce que vous rentrez au théâtre à 13h, vous en sortez à 23h, vous êtes resté dans l'énergie.
Dans le jus.
Ouais, c'est trop bon.
Les pièces d'Alexis Michalik qui se jouent toujours actuellement à Paris, il y a Edmond, Intramuros, Le Porteur d'Histoire, Passeport, je ne parle pas de celles qui sont en tournée. Il y a, vous avez pris les rênes aussi du Théâtre des Salinières.
À Bordeaux, tout à fait, avec un grand plaisir. Et on a commencé par y programmer Le Porteur d'Histoire et on espère qu'on aura plein de jolis spectacles à venir.
Il y a...
Ah, vous vous programmez quoi.
C'est-à-dire qu'on ouvre un théâtre, et il faut qu'il y ait des gens. Hein.
Oui. Bah, y a donc, autant jouer Alexis Michalik. Ouais. C'est ça.
Économise beaucoup de...
Okay. On a rarement été aussi mal reçus. Hein.
C'est vrai. Tu veux qu'on s'en aille, Alexis ? Ça balance.
Bien. Mais nous, on écoute ce que vous dites. Hein. Intraçable, vous jouez sous la direction d'Amy Cohen.
Tout à fait, c'est pas cette direction de Louis Farge, mais Amy Cohen a écrit effectivement avec Sophia et Saïdi.
Et Irène Jacob.
Un couple, c'est super.
Et ça passera d'abord en Suisse et ensuite sur TF1 plus tard. D'être tous les soirs évidemment au théâtre, ça vous interdit de jouer dans des séries, dans des fictions, ou au contraire, vous pouvez le faire l'après-midi, Florent Père ?
Non, là je suis.
Vous avez déjà tourné La Mère et l'Assassin ?
Ouais. Ça c'est déjà, je l'ai tourné en mai-juin.
France 2.
Ouais, ça sera diffusé sur France 2, je sais pas encore quand. C'est un 4x52 minutes, une mini-série avec Hélène de Fougerolles qui est adaptée d'un roman qui est très très, franchement c'est vraiment bien. C'est un drame et c'est
Et vous serez animateur.
Non, pas du tout.
Les chaises musicales infernales, c'est ça?
Ah, on peut le...
Ah bah oui, je pense.
C'est annoncé. Hein.
Bah oui, c'est sur mon CV.
De toute façon, c'est trop tard maintenant.
Ouais, maintenant, c'est fait.
Un comedy game...
Vous le couperez?
Non.
Très fatigué, Florent.
Oui, c'est ça, c'est un comedy game. C'est la même production que le Loup-garou. Donc, c'est dans la veine de ces jeux de société ou jeux de famille qu'on met comme ça en comedy game. Et c'est très rigolo et j'en fais donc... on dit incarnant, c'est pas vraiment animateur, puisque en fait, ce sont des mini-sketchs, des scénettes qui ont été écrites où je joue un personnage, je fais le lien dans le jeu, mais le jeu est très drôle.
Les producteurs au Théâtre de Paris, des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, déjà, désolé pour Alexis Michalik, qui, quand il a vu le casting de la bande de ce matin, a découvert qu'on était encore allé plus loin que Mel Brooks en sélectionnant les pires. Les plus mauvais, Florent peut en témoigner, il a fait pire de cette bande. Il a fait pas cette bande,
il a fait pire.
Désolé pour Emma Beaujean qui fêtera ses 12 ans la semaine prochaine et qui a découvert ce matin l'existence de Popek et des Danettes. Voilà, tu découvres l'ancien monde, Emma, et regarde bien, fais pas de bruit. Le petit monsieur aux cheveux blancs avec un regard cruel, c'est Nagui, c'est une légende. C'est lui qui a inventé la Danette. C'est lui le papa de Popek. Désolé enfin pour Nonote, auditrice historique de France Inter, historique et pudique, qui ce matin était victime de l'esprit tordu et pervers de Nagui, le satyre d'Alexandrie, son surnom chez Marc Dorcel. Oui, quand Florent Père a dit « on montait l'escalier pour prendre Nonote », Nagui n'a pu se retenir en balançant « c'est qui Nonote ?» Nagui,
depuis quand tu rechoues
bah, il a raison, parce que je crois que...
Mais quoi, il n'y a rien à dire.
Alors qu'il était affligé sur les cintres, sur la vanne des cintres.
Voilà,
Nonote, c'est pas mieux. Hein.
Merci beaucoup et bravo Florent Père pour cette prouesse des producteurs mis en scène par Alexis Michalik. Merci Alexis. C'est au Théâtre de Paris, je le rappelle. Demain, Alix Poisson et Jean-Xavier de Lestrade seront nos invités. Nous évoquerons évidemment les commémorations du triste anniversaire du Bataclan. Demain, ils seront nos invités.